rôle de l'Église. C'est le quatrième point du plan que vous avez pour le septième cours. Comme je le disais tout à l'heure, depuis l'époque ou la génération apostolique, il a bien plu et beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Et on se retrouve donc avec ces termes très galvaudés, si l'on peut dire, la tradition. C'est un mot fétiche utilisé abondamment dans les langages ecclésial et ecclésiastique. Bon, ce qui est certain que depuis le temps que ça dure, 2000 ans, il faut bien constater qu'il y a eu une transmission, quelque part, entre les premiers témoins et nous. Il y a quand même quelques générations. Je ne suis pas un adepte de l'arbre généalogique, mais bon, il ne faut pas avoir Bac plus 15 pour comprendre ça. On peut dire que les témoignages des disciples que nous avons considérés à juste titre comme la révélation a été transmise. L'ensemble du mécanisme qui a été mis en œuvre pour que les témoignages de premiers témoins arrivent jusqu'à nous, on peut appeler cet ensemble, on peut appeler tout ça la tradition. Très souvent, le terme tradition a un sens assez péjoratif. Je m'explique. On le comprend comme répétition. Répétition de la doctrine, d'une manière de comprendre, d'un comportement. Traiter quelqu'un de traditionnaliste, signifie tout simplement, dans le langage courant, que cette personne a du mal ou se refuse à changer ses convictions ou les comportements qu'il a conçus à la suite de ses convictions. Et il est vrai que l'usage abusif du terme fait qu'on peut utiliser le terme dans des cadres très variés et avec des sens différents. Par exemple, un exemple très bête. Vous avez en Marc, chapitre 9, verset 2 et 13, et dans les autres synoptiques aussi, le récit de la transfiguration. Là, on peut dire transfiguration parce que le texte grec parle « il se transfigura en leur présence ». Donc là, c'est un titre, disons, légitime, si on peut dire. Mais le récit des évangiles ne dit pas où ça s'est passé. Or, je dis bien, entre guillemets, traditionnellement, on les place au Mont Tabor. J'étais encore cet été. On ne sait pas plus au Mont Tabor, comment, je ne sais pas quoi, Guelboé qui n'est pas loin. Pourquoi est-ce qu'on a pris ça, le Mont Tabor, comme... Bon, parce que, ça, si vous voyez, c'est la plaine au sud de Nazareth de la basse Galilée. C'est une plaine où il n'y a pas un chat, si l'on peut dire. Il n'y a rien et tout d'un coup, en plein milieu, bon, il y a le Mont Tabor. Bon, ça, c'est vrai que c'est très visible de ce point de vue. Mais le texte, même s'il est montabaur, est quand même connu dans l'Ancien Testament pour une célèbre bataille dans le livre des Juges. Mais les évangélistes ne disent pas du tout où c'est. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a mis là? Parce que à la suite de la conversion de l'empereur Constantin romain, dans le début du IVe siècle, sa mère, que vous connaissez tous, Hélène, avec H, Hélène, ben il a pris d'une fièvre de pèlerinage et il a parcouru la Palestine, etc. Bon, ben, c'est à elle qu'on attribue aussi l'invention de la croix, qu'on fête le 14 septembre. C'est pas rien, c'est la fête de mon village, donc c'est vraiment très important. Bon. Et alors, le problème, c'était le 14 septembre, c'est la fête de l'exaltation de la Sainte Croix qui fête le fait qu'on a trouvé la vraie croix. La vraie, entre guillemets. Parce que, comme on dit souvent, si on ramasse tous les restes de la vraie croix qui existent, on peut en faire 15, hein, au moins. Bon. Mais. Donc la déferlante touristique, pèlerinage en Terre Sainte a pris une dimension terrible. Mais les gens voulaient savoir où. La transfiguration, c'est assez visible, mais c'était où? Ils ont fait une basilique en haut de la montagne, etc. Le célèbre texte de Luc, les bons samaritains. Où se trouve l'auberge? Vous avez un lieu avec cette auberge du bon samaritain. Marie. Elle est morte quand même. Bon. Mais à Jérusalem, il y a deux lieux de la dormition. Un. Tenu par les bénédictins allemands, qui est très bien, dans le sens que c'est archi super propre, très calme, c'est pour méditer, c'est parfait. Et une autre, tenue à côté des Gethsémani par les orthodoxes. C'est pas la même ambiance. Voilà. Où a-t-il pleuré Jésus quand il allait vers Jérusalem? Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Si, où est-ce que tu peux... Vous avez au mont des Oliviers, une petite chapelle super mignonne, avec une vue sur Jérusalem, sur les mosquées, etc. Dominus flebit. C'est là que Jésus pleura. C'est un peu la dynamique, si l'on peut dire, du pèlerinage, pour ça que je n'aime pas du tout ce terme, ni surtout ce qui revient derrière. Bon, une chose, c'est de voir le pays, qu'est-ce que ça évoque, la dimension historique, et théologique, etc., et religieuse. Mais ici, Jésus pleura. Ici, il s'assit. Là-bas, et alors? Donc, c'est une attitude compréhensible. Hein. Ça je ne critique pas, mais une fois qu'on a assumé ces réflexes, après, il faut voir qu'est-ce qu'on a fait. On les cultive, ou on les place, et on les situe. Tradition et tradition. Même dans l'utilisation que nous en faisons, il y a des différents niveaux et des différentes valeurs. On On parle, par exemple, on peut dire, dans ma famille, il y a, c'est pas vrai parce qu'on n'est pas français, mais enfin bon, la tradition de faire une rencontre familiale, et aller tous à la messe et tout, et après un repas familial, les troisièmes dimanches du mois de janvier. Pourquoi ? Pour fêter la mort de Louis XVI. Par exemple, c'est une tradition, et je suis certain qu'il y a des familles où on célèbre ça.
Commémore,
oui.
Il y a des messes, hein, de toute façon.
Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est une tradition. C'est quand même pas la même chose que la tradition de la Semaine Sainte. Semaine Sainte, de la célébration des Pâques. Ça, c'est une tradition. Parce que la célébration de la Semaine Sainte, de la veillée pascale surtout, ça fait partie des fondamentaux essentiels de la foi. Tandis que, par exemple, le mercredi des cendres, c'est de la déco. Pourquoi ? Normalement, la célébration du carême commence évidemment avec le premier dimanche de carême. Mais si vous faites les comptes entre le premier dimanche de carême et les samedis saints, la veillée pascale, il n'y a pas 50 jours. Hein, il n'y a pas 40 jours. Donc, comme c'est 40 jours, ben, il faut quand même aller jusqu'au mercredi avant. Bon. Je n'ai absolument rien contre, mais enfin, il ne faut quand même pas tout mettre sur le même plan. On peut dire, ça change ce qu'on dit, que la célébration du mercredi saint, c'est une tradition. C'est quand même pas la même chose que la tradition de la veillée pascale. Quand même. Tradition, dans les sens lourds, dense, peut être considéré comme tout ce qui constitue les noyaux durs de la foi. Concentré, si vous voulez, dans l'écriture, et qui, au cours de l'histoire, s'est déployé dans l'ensemble des communautés chrétiennes. Avec, en assumant les développements classiques qu'on peut... Non, par exemple, la célébration de Noël. Ben, pendant des siècles, on n'a pas fêté Noël. Bon, à mon avis, ça s'est devenu une tradition, moins importante, certes, de Pâques, c'est pas du même ordre, mais fêter l'incarnation, pas comme disait l'autre, la volaille céleste, mais bon, fêter le fait que Jésus est devenu l'un de nous, ça, oui, ça relève du noyau dur de la foi. Justement, l'incarnation, ça fait partie du noyau dur de la foi. Même si pendant quelques siècles, on ne mettait pas l'accent sur cet aspect, on en mettait l'accent sur la célébration pascale, qui est d'abord, effectivement, et dans l'ordre de la valeur, si l'on peut dire, premier. À tel point qu'il y a une commune qui m'énerve un peu en Espagne, pour Noël, on dit aussi Joyeux Noël, etc., mais on dit Joyeux Pâques. Mais on n'est pas à Pâques. Ah, mais moi j'ai eu une dispute permanente avec mon frère, qui disait ça tout le temps. Je disais, pas tant, mais Noël, c'est pas Pâques. Ouais, je sais bien, mais enfin quand même, c'est une habitude, etc. quelque part, s'est fait le lien entre Noël et Pâques, effectivement. Noël n'a pas de sens s'il n'y a pas de Pâques. Ça, c'est tout à fait certain. Le terme grec utilisé pour dire tradition, vous l'avez là, c'est paradoxis, qui est le même mot que ce que vous trouvez dans paradoxe, mais avec le sens grec. Et vous avez le célèbre, ce texte, plus que célèbre, donc, de Paul, à la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 11. Il y a deux fois où il est utilisé en 15 et en 11, mais en 15, c'est le plus fondamental, quand il dit « Paredoka gar emin en protois » Ok, pareil la bonne. C'est-à-dire, je vous ai transmis, en premier lieu, ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité au troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est aussi apparu à moi, l'avorton. Car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais il revendique tout le temps, je ne suis pas digne, mais... parce que j'ai persécuté l'Église des dieux. Mais ce que je suis, je les dois à la grâce des dieux, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine, au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce des dieux qui est avec moi. Bref, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons, et voilà ce que vous avez cru. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu. Autrement dit, on l'avait vu l'autre jour, c'est la transmission du kérigme, de l'annonce. Christ est mort pour nos péchés. Donc il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Mais même dans ces longs discours, il y a des choses qui relèvent de la tradition, mais qui ne sont pas du tout du même genre. C'est quand même pas la même chose de dire que Jésus est apparu aux 12 et après à plus de 500. Bon, pourquoi pas 503? Ou de dire que lui a persécuté à l'Église. Bon, très bien, on l'a dit, on s'en fout, enfin, presque. Mais ça relève de la tradition, mais pas au même niveau. C'est-à-dire, la tradition comporte deux éléments essentiels. Réception de quelque chose qui existe déjà et innovation aux circonstances et au temps du moment présent.
Vous pouvez répéter les deux ?
Les deux.
Réception de quelque chose qui existe.
C'est, oui, non, j'y vais. Réception de quelque chose qui existe déjà et innovation aux circonstances et au temps du moment présent. Vous ne pouvez pas innover si vous n'avez rien à innover. C'est que vous avez à innover, c'est que vous avez reçu, donc la transmission. Comme tout être vivant, même si la comparaison dans les domaines de la biologie, il faut la prendre avec des pincettes, hein, en transmettant, on transforme. En transmettant, on transforme, même si on ne le veut pas. L'image musicale peut être très utile dans ces histoires. À partir d'une mélodie, vous pouvez faire des variations. Pensez par exemple aux variations Colbert. Mélodie de Bach, vous avez par exemple un des exercices majeurs quand on va embaucher un organiste, c'est l'improvisation. Et l'improvisation, très souvent, consiste justement à faire des variations. Hier, nous avions un de nos deux organistes à la célébration, et à chaque fois, quand on prépare, on dit s'il faudra de l'orgue, ceci, ça. Et très souvent, on lui dit de faire des variations à partir du texte de l'écriture qu'on a lu. Enfin, hier, par exemple, c'était après les textes de l'Apocalypse. Bon, là, c'était assez, disons, facile. Parce que le texte était assez fort. Et là, on lui demande de faire des variations à partir de ses points de vue précis. Et les variations, c'est justement cela. In fine, à la fin, qu'est-ce qu'il va avoir les communs entre les variations? Entre les variations, il y aura un point commun. Les points de départ, justement. Dans la transmission-communication, il y a évidemment plusieurs niveaux, plusieurs étapes. En transmission, il y a toujours, d'abord, quand on regarde comment les choses se passent, il y a la relation individuelle. On parle à quelqu'un que nous rencontrons, que nous connaissons par le travail, par la famille, etc. À force de parler de foot, on finit par parler de religion, par exemple. On commence donc par une relation individuelle, personnelle, avec les gens. Puis, peu à peu, on peut arriver à être amené, comme dit l'épître de Pierre, à être amené à rendre compte de notre espérance. Je me souviens, je crois que je vous ai déjà dit, parce que c'est quelque chose que je répète tout le temps. Michel Sureau, vous voyez le comédien célèbre qui est mort il y a 3 ans ou par là. À un moment, je ne sais pas s'il était à la télé ou à la radio, mais le journaliste... tout tremblant parce qu'on ne savait jamais comment il allait réagir, il demande, il paraît que vous êtes chrétien? Oui, tout à fait, oui. Confronté ou conforté par cette réponse positive, le journaliste lui dit, et vous le dites? La réponse, non. Je préfère qu'on le devine. Alors je trouve ça génial. Autrement dit, ce n'était pas, comment dire, une évangélisation de la pancarte. En voyant comment il agit et comment il parle, que les gens se disent, merde, celui-là... Et à ce moment-là, on pose des questions et la transmission commence par la relation personnelle et individuelle. Et ensuite, il y a l'autre aspect qui est quand même très important et difficile, c'est de passer d'une connivence au niveau personnel à faire découvrir à l'autre la dimension communautaire ou ecclésiale de la foi. Et là, c'est ce qu'on voit, par exemple, de façon très très nette, par exemple, avec les catéchumènes. Bon, Jésus-Christ, à la rigueur d'autres choses, l'Eucharistie, etc. D'accord, ça va. Mais prendre conscience réellement, assumer le fait que la foi ne peut pas se vivre isolée et en communion directe avec un fil personnel, une ligne rouge avec Dieu, isolée de tout le monde, ça c'est très souvent long, très long à montrer. Et pourtant, c'est une chose absolument essentielle du point de vue de la foi. Tout cela, évidemment, constitue ou suppose une confiance créée entre deux personnes. D'autant plus que la liberté est la règle majeure dans cette histoire. Car la foi ne se transmet pas. La foi n'est pas une maladie contagieuse. Non, je dis ça souvent, la foi n'est pas le sida. Désolé. La foi se propose. Ce qui n'est pas la même chose. Bon, dans les années 90, 15, par là, je ne sais plus si c'était en 98, les évêques de France avaient fait la célèbre lettre dans laquelle ils disaient ça, justement. La foi ne se transmet pas, la foi se propose. Ce n'est pas encore arrivé au mécanisme de tout le monde. On parle toujours de la transmission de la foi, la transmission, oui. Il y a des éléments qu'on transmet, c'est-à-dire les connaissances autour d'eux. Ce qu'on fait là maintenant, bon, ça c'est très bien. Mais la foi en tant que telle, ça se propose et l'autre dit, oui, peut-être, on verra ou non. En plus que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la foi c'est pas un paquet de vérités, mais une personne. On témoigne d'une personne et puis l'autre va dire bah, « Tiens, c'est pas mal, ça m'intéresse » ou bien « Pas du tout ». Et les différents aspects de la vie des gens entrent dans ces mouvements des relations personnelles et des propositions de la foi. La prière, les postures dans le social, le politique. Donc je me suis entraîné il y a 5 ans. Il y avait eu les élections européennes. 5 ans c'était ou 4, je ne sais plus. Et il y avait eu une poussée énorme de l'extrême droite et ils avaient dit que dans cette poussée énorme, il y avait 25% qui étaient des cathos pratiquants. Ils auraient fait un petit papier pour la page web de la communauté. Ils avaient utilisé comme titre ce qui était dit justement hier dans le texte de l'Apocalypse. Parce que tu n'es ni chaud ni froid, mais tiède, je vais te vomir de ma bouche. Et j'avais trouvé effectivement qu'il y avait eu une espèce de brume épaisse. Et on n'avait pas pris les... Et ça avait été exactement pareil. en 2007, au moment des élections présidentielles. Et je me souviens que juste avant, la célébration eucharistique, il y en avait deux, une à 10h et une autre à 11h15, donc entre les deux, il y a eu des gens de la télé ou de la radio, je ne sais pas quoi, qui sont venus, qui m'ont demandé est-ce que vous avez parlé de la question des élections. C'était entre les deux tours. Je ne pensais pas le faire. Mais là, j'ai dit oui. Et je n'ai dit qu'une phrase. Voter pour tel parti est incompatible avec la foi chrétienne. Point. Et là, il faut... C'était incompatible. Et ça, c'est pas négociable. Ça ne veut pas dire que je vais aller avec une calache pour éliminer tous ceux qui votent pour ce genre-là. Mais... Bon. Donc, la transmission de la foi, ça... la proposition de la foi, ça suppose qu'on soit aussi dans la proposition très claire et très nette, même sans passer sa vie à donner des baffes, mais bon. Claire. Dans cette communication, dans cette relation individuelle, la question transmission en tant que telle n'est pas sans intérêt dans la mesure où il y a beaucoup de choses à savoir aussi. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a demandé la question de l'historicité de Jésus, de... est-ce que c'est assez clair ? Écoute, là, bon, c'est évident qu'historiquement, il n'y a pas le moindre doute que Jésus de Nazareth est né à un mois près, il est mort à une semaine près, etc. Donc là, du point de vue historique, ni croyant, ni pas croyant, mais du point de vue historique, ça c'est incontournable. Mais bon, ça aussi, il faut quand même, quand on entre dans la dynamique de la relation individuelle à propos de la foi, ben, à un moment, c'est des questions qui se posent. Parce que sinon, après, ils vont dire, ah, mais on m'avait berné, mais vraiment, non, enfin, ça, après, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a des choses qu'il faut connaître, apprendre. D'où l'intérêt d'avoir une base technique, si l'on peut dire, pour construire un peu les socles de la foi qui sera toujours de toute façon une décision personnelle et individuelle. Mais sur un fondement rationnel le plus solide possible. Je me souviens très bien qu'il y a à peu près 15 ans, il y avait eu une polémique assez forte à propos du livre que j'ai cité dans la biographie des Pagola, donc Jésus, approche historique. Bon, la polémique avait été en Espagne et il avait été interdit à la vente par les évêques. Eh bien, ils ne pouvaient pas interdire, mais ils ont eu suffisamment de poids pour interdire à la maison d'édition de le mettre en vente, etc. C'était une histoire. Et puis, dans ce contexte, le cardinal Ravasi, qui est un Italien, qui est actuellement le directeur de la si on veut dire, du ministère de la Culture du Vatican, qui est un bibliste aussi, hein, qui a beaucoup produit, peut-être un peu trop, mais enfin, bon. Il avait fait une déclaration dans un des journaux italiens les plus connus, disant que ce livre était extrêmement positif et qui était particulièrement dense et sûr, etc. Et que il était dommage qu'en italien, il n'y en ait pas un du même genre pour justement discuter et parler avec les non-croyants. Quoi ? Parler d'une base, d'un fondement solide. Donc j'étais tout à fait, dans cette perspective, ces livres sont tout à fait pertinents. Ensuite, et ne mélangeons pas les domaines, on va parler des effets que ce Jésus de Nazareth a produit. À ce moment-là, on pourra parler des premiers chrétiens, de leur expérience comme des témoins de ces Jésus crucifiés qu'ils disent être toujours vivants et ressuscités, pas toujours vivants, qu'il est maintenant ressuscité, les crucifiés c'est les ressuscités, mais justement, on l'a déjà dit, mais les témoignages sur la résurrection ne relèvent pas de l'histoire ni de la rationalité, mais de la foi. Mais en séparant les choses, à ce moment-là, on peut être très très bien. Bon, alors les points suivants, écriture, tradition. C'est une question archi-classique est très importante dans le contexte écuménique. Surtout dans le rapport catholique romain et protestant. Luthérien, Luther au XVIe siècle, effectivement, avait réagi avec vigueur et non sans raison à l'hypertrophie du rôle de la tradition à son époque, du rôle de ce qu'on appelait tradition. À tel point que l'écriture était devenue, dans trop de cas, une simple illustration des affirmations des foi montées à partir d'autres réalités. Et je me souviens très bien. J'ai encore arrivé à cette époque où dans les thèses qu'on expliquait en théologie, il y avait la thèse sur la Trinité, je ne sais pas quoi, et après il y avait un moment qui mettait preuve d'écriture. À ce moment-là, on vous sortait 3 ou 4 textes qu'on expliquait ou on n'expliquait pas, et qui était censé prouver par une citation biblique la vérité qui était développée à partir de notre histoire. Je me souviens très bien une fois, dans les années 98, par là, l'ordre des Trinitaires, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un ordre religieux classique, ils tiennent à Paris, ils tiennent la paroisse de Saint-Leu, dans le Marais, par là. Enfin, dans le Marais, dans le... plutôt du côté Beaubourg. Et il faisait tous les ans un colloque sur cet aspect de la Trinité. Et à ce moment-là, il y avait eu le pape Jean-Paul II qui avait sorti 3 encycliques, pas tout en même temps, mais en 3 ans, sur la Trinité. Une sur le Père, une autre sur le Fils, une autre sur le Saint-Esprit. Donc ça, tout le monde était content. Et à ce mois-là, il faisait donc chaque année un colloque sur chacune des 3. Je m'avais demandé d'aller pour faire les points de vue de l'écriture dans l'une des deux. C'était celle sur Dieu le Père, je crois. Moi, j'avais travaillé le texte du pape, effectivement, voir un peu l'écriture, quel était le rôle qu'il jouait. Bon, il y avait des citations et des développements des trois types. Des citations qui, effectivement, étaient déployées, des citations de l'écriture qui étaient déployées dans l'encyclique. Là, c'était vraiment de la théologie biblique, comme on dit. Très bien. D'autres fois, où la citation biblique correspondait au développement théologique qui était fait. Et troisièmement, il y avait un bon nombre de citations théologiques qui étaient purement décoratives. Parce que ça fait bien. Si vous faites un texte et vous citez Saint Paul, etc., ben ça en jette. Mais trop souvent, dans la théologie classique, dans les études des théologies, l'écriture n'était que décorative. Trop souvent. De ce point de vue, Luther avait plus qu'à raison. Et on arrive à ces paradoxes. On est arrivé à ces paradoxes. Confesser de la théologie sans l'écriture. C'est une sorte de contradiction dans le terme. Enfin. C'est une situation classique. Ça s'est passé aussi dans les judaïsmes. Au 8e siècle de notre ère, il y a eu une sorte de révolte, genre Luther, mais dans les judaïsmes. Parce que dans les judaïsmes, il y avait une hyper développement des commentaires. Et à la fin, on ne travaillait que les commentaires. Commentaires, de commentaires, de commentaires, de commentaires. Et il y a eu une révolte, un groupe qui s'appelle les Karaïtes. Bon, vous le verrez dans les textes. Qui n'est pas encore mort. Cet groupe ou secte, comme vous voulez. Et actuellement, vous avez la même histoire. Dans le judaïsme, c'est tout à orthodoxe, c'est donc Talmud, Talmud, Talmud. Et je me souviens très très bien, il y a 35 ans, à un moment, les doyens de la faculté de théologie de la Cato a écrit au grand rabbin pour lui dire, mais Monsieur le rabbin, machin, tout ça. Et je tiens à vous signaler quand même qu'il y a un bon nombre d'étudiants des confessions juives qui viennent à l'Institut catholique de Paris pour suivre les cours d'hébreu public. On n'a rien contre, loin de là, bien au contraire, mais enfin, pour que vous sachiez, nous, on n'est pour rien. Et le grand rabbin, il s'appelait Sitrouk à l'époque, Norsera, a répondu, oui, je sais bien, mais je tiens à vous dire quand même que dans nos institutions, dans nos écoles, nos synagogues, on n'étudie pas l'hébreu biblique, on étudie l'hébreu rabbinique. Autrement dit, l'hébreu de la tradition, mais pas l'hébreu de la source. Donc j'ai retrouvé ces paradoxes qui venaient chez nous pour faire de... Et moi, j'en ai eu un étudiant que j'ai revu il n'y a pas si longtemps, qui est devenu après un grand prof à l'école pratique des hautes études, qui avait suivi non seulement le cours de hébreu, mais tous les cours des Bibles. La tradition. Le concile des Trente, donc 16e siècle, a été en beaucoup de domaines très novateur. Très novateur. Pas sur tout, mais enfin, dans ces domaines, il l'a été. Le problème, c'est que, qu'on y arrive souvent, les temps que les décisions et les pistes mises en valeur dans un concile prennent corps dans l'Église, ça, c'était au 30, enfin à 30, qu'on avait décidé de faire des séminaires pour former les prêtres, qui étaient vraiment d'une ignorance crasse, dans le sens le plus simple du mot. Bon, je me souviens très bien que les séminaires conciliaires chez nous, ça a été fait 2 siècles après. 2 siècles après. Je vois encore où il était. Après, on s'est plaint que normalement, et je m'arrêterai là, les protestants sont censés connaître la Bible mieux que les cathos. En gros, c'est vrai. En gros, c'est vrai. Troisième fois, en gros, c'est vrai.
Même dans le détail.
Oui. Mais une chose, c'est que bon, leur système d'éducation, l'école de dimanche, etc., c'est plus centré sur l'écriture que nous sur le catéchisme. Ça, c'est tout à fait ça. Maintenant, les choses ont quand même pas mal changé. Parce que nous, on fait quand même beaucoup plus. On a fait des progrès des gens dans l'approche et la pratique de l'écriture. Ça, il faut le dire quand même. Et avec tout ce qu'on a travaillé, etc., etc., à tous les niveaux, surtout au niveau scientifique, les protestants sont un peu moins à l'aise avec cette histoire d'écriture tradition, parce qu'ils se sont rendus compte que l'écriture, à 95%, a comme base une tradition. Les Nouveaux Testaments, les synoptiques, Jean, etc., partent et englobent un matériel extrêmement important qui s'est fait traditionnellement dans la liturgie, par exemple, dans la catéchèse, dans la cécile, dans la... Donc, faire une opposition écriture-tradition, c'est aussi bête de leur point de vue. Que du notre dos, maintenant, on s'est quand même pas mal calmé. Encore une fois, on va pas faire une manif pour ça, d'autant plus que les stocks des gaz lacrymogènes est arrêté. Donc, pas de manif pour l'instant. Bon, on se retrouve la semaine prochaine.